Bienvenue dans l'Agora de l'UPOP Marseille Métropole. Tous les mardis de 13h à 14h, ce micro est ouvert pour plein de régalades avec des pépites de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis de Radio Galère, bonjour. Bienvenue dans l'Agora. Bienvenue chez Radio Galère 88.4 de la bande FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Mélon et Christelle Bazin, qui sont les co-réalisatrices de l'exposition La Dent Creuse, que vous pouvez visiter jusqu'au 21 décembre dans la salle des rotatives de la Marseillaise. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors, quel est ton parcours, Agnès ?
Alors, je suis photographe professionnelle, plutôt dans le milieu culturel, notamment dans la danse contemporaine, depuis 15 ans, à Marseille et sur Avignon ou ailleurs.
Partout.
Partout, on ne dirait pas, mais en tout cas, je me balade.
Et toi, Christelle ? J'ai lu que tu étais journaliste.
Oui,
je
suis journaliste indépendante. Moi, je travaille à l'origine beaucoup sur les questions de la société du numérique, c'est-à-dire la façon dont le numérique influe sur la société à venir. Et ensuite, je travaille aussi beaucoup autour des mouvements citoyens et de la solidarité sociale. Voilà, j'ai différents médias pour qui j'écris régulièrement. Beaucoup de presse, enfin beaucoup par l'écrit, mais aussi parfois par le son, comme on va pouvoir en parler. Très vite là.
Agnès, tu fais partie d'un collectif qui est l'association VArt 5, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, il y a, je crois maintenant, un peu plus d'un an, on a monté une association au départ pour défendre, pour soutenir mon travail et pour soutenir le travail d'artistes ou autres personnes qui nous inspireraient. Cette association, elle a permis en fait de demander une subvention pour le projet pour lequel on est là, l'exposition La Dent Creuse.
Je vous invite à vous rapprocher d'une association marseillaise qui est Éclosion 13. Et cette association a pour objet de faire la promotion d'artistes femmes locales, régionales. C'est une association qui est une activité très, très intéressante, très importante. Celle qui en est à l'initiative, c'est Dominique Bianchi, qui a également créé le groupe Les Poulettes et aussi le festival Les Festives qui s'est déroulé il y a peu de temps à la Belle de Mai.
Oui, Les Festives, on les a vus passer aux rotatives.
Ouais. Ce sont des artistes que je suis régulièrement et qui ont vraiment une belle énergie, qui proposent de très très belles choses. C'est bien si vous êtes des gens en connexion, parce que cette agora sert aussi à mettre en connexion ce que j'appelle des pépites.
Si je peux juste préciser une chose sur l'association, je pense que l'exposition là dont on va parler nous a fait aussi bouger pas mal sur la définition de l'association. Je pense qu'on est, on est plusieurs maintenant au sein de l'association à vouloir avancer sur les questions de société, les questions collectives, c'est-à-dire mettre les arts visuels au service de ces questions communes. Enfin, voilà. Donc les choses évoluent au fur et à mesure qu'on fait les choses, c'est normal.
Oui, c'est bien comme ça. Donc cette exposition, c'est la suite des événements, en fait, des effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne. Et qui, comme le nom de l'exposition l'indique, ont creusé une dent creuse. Je le disais à Agnès il y a quelque temps, en fait, on a souvent parlé, et depuis très longtemps, de la dent creuse qui est sur la Canebière, qui est dans le prolongement de la rue Saint-Féréol. Et entre la Canebière et puis les nouvelles galeries, il y a cet espace qui n'a jamais été bâti, construit, pour plein de raisons. Mais ce n'est pas l'objet. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette exposition qui est particulièrement riche ?
Alors, en fait, au début, on n'y a pas pensé. C'est-à-dire qu'on est allé... Alors, les premières photos qu'on a faites, c'était en tout cas... Les premières photos que j'ai faites, c'était pour la marche funèbre le 1er novembre pour la plaine.
D'accord.
Et en fait, ça faisait
peut-être expliquer ce que c'est la marche funèbre. Parce que
pour ceux qui ne savent pas, à la plaine, la municipalité a érigé un mur tout autour de la plaine pour protéger les travaux. Bien sûr, les citoyens marseillais étaient contre ce... Pardon ?
390 000 euros.
Tout à fait. Donc, bien sûr, les citoyens et nous-mêmes, bon, on a été un peu choqués par ce mur qui était, qui nous bloquait toute la place et qui était violent. Et il y a eu un collectif qui a organisé cette marche funèbre. Donc, j'ai pris mon appareil photo et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais aller faire des photos. Ce jour-là, on parlait de mort, mais d'arbres. Il y avait des parapluies, il pleuvait, un peu prémonitoire peut-être, puisque 4 jours après, il y avait les effondrements des immeubles. Après, ben, je suis citoyenne marseillaise, je suis citoyenne tout court, et j'ai été, comme beaucoup de gens, sidérée par ce qui s'est passé, que ce soit possible en France qu'un immeuble s'effondre avec 8 personnes dedans. Et ben, on est allé sur la première marche blanche. Et ben, bien sûr, j'avais avec moi mon appareil photo. Mais sans, je ne savais même pas si j'allais prendre des photos, en fait. Et puis, j'ai commencé à faire ce travail. Et très rapidement, je me suis dit, c'est pas possible ce qui s'est passé. Et c'est pas possible de ne rien faire. Et j'ai dit à Christelle, on va faire une exposition. Et il faut du son. Donc, il faut que tu prennes le son.
Donc, tu es l'instigatrice de cet événement.
Oui, oui, puis instigatrice, mais en même temps, on est tellement en harmonie, enfin, que l'instigatrice, parce qu'elle est là aussi.
Oui, mais c'est bien d'assumer sa paternité,
oui.
son initiative. Moi, je crois qu'il faut revendiquer, au contraire.
Oui, en tout cas, moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose, voilà.
Et en travaillant cette émission, j'ai remarqué que tes photos portent aussi sur les corps, bien sûr, mais également sur l'ambiguïté. Tu peux en dire quelques mots ?
Alors, le corps, ben, parce que je suis photographe de danse contemporaine, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et je suis un photographe un peu particulier, plus que je n'utilise jamais de grand angle. J'aime prendre une main en photo, un coup. Je trouve que c'est là où dégage toute l'émotion, toute la sensibilité. Et ce genre de photos, pour moi, justement, sont plus des photos de suggestion, d'ambiguïté. C'est-à-dire que celui qui va regarder, c'est lui qui crée son imaginaire. C'est pas moi qui le donne, c'est pas moi qui l'oblige, c'est pas moi, voilà, qui le. C'est pas des photos narratives, en fait.
Ça me plaît ce que tu indiques, parce que moi, je m'interroge toujours sur la capacité de la photo à créer du sentiment.
Pardon, j'ai mal entendu.
La capacité de la photo à créer, à transmettre du sentiment. Parce que la photo, bah, c'est un instant figé. Donc on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Et donc c'est comment cette image est porteuse de sens et d'envie.
Ouf, ça mais c'est une grande question.
Mais oui, mais c'est la difficulté de l'artiste, qu'il soit dans l'écriture, dans la peinture, ou dans la photo, ou dans la musique.
Tout à fait, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est déjà, pour moi, une volonté première. Ça s'est écrit au fil des années, et ça se renforce même. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je découpe les photos, je les fragmente pour redonner du mouvement, pour redonner un champ de vision plus large, en fait. Notamment dans mes photos de danse, souvent, je décale complètement le danseur, le personnage, pour laisser une grande partie de noir. Et ce noir permet justement, au regard en tout cas, de s'évader beaucoup plus. Parce qu'il n'est pas figé sur quelque chose de centré, il n'est pas figé sur... sur quelque chose. Il y a ce noir qui est complètement ambigu, qui appelle à ce qu'on veut, en fait.
C'est ça, tu invites à l'imaginaire.
J'essaye d'inviter à l'imaginaire, oui.
Et pour poursuivre dans l'imaginaire, lorsque nous poussons la porte de la salle des rotatives, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est proposé? Quel est le parcours de cette exposition?
Tu vas me passer. Okay.
Ouais, il faut que tu
Alors,
parles un
je,
peu.
Je vais rebondir. Alors, on entre.
Par la porte.
On entre dans les rotatifs par la colère. Ça a été. L'exposition s'appelle La dent creuse, cartographie de la colère. On rentre donc par cette colère qui est une image très rouge, en fait. On passe à travers cette image pour rentrer dans les rotatifs. C'est aussi une image qui appelle de l'extérieur tout à chacun à venir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une institution, les rotatifs, c'est de plein pied. On est dans la rue, et hop, juste après, on est dans l'exposition. Il y a très, très peu de sas, en fait, voilà. Cette image, c'est une photo qu'Agnès a prise lors d'une des manifestations. C'était celle de l'appel aux masses qu'avait lancé l'Assemblée de la Plaine avec cette ironie ou ce côté un peu grinçant d'aller casser le mur. Casser le mur, mais avec des masses en papier mâché. Et moi, je me souviens notamment d'une scène très étonnante où, à la Plaine, ils avaient un énorme marteau de papier mâché qu'ils portaient à plusieurs manifestants, et ils ont chargé les CRS avec ça. Et voilà, c'était un peu emblématique de ce jour-là, une espèce de surréalisme complet de cette situation, du mur, cette incompréhension et cette volonté d'agir et cette colère, en fait, rouge pour le coup, à mon avis, à ce moment-là, même si elle a eu différentes couleurs. Donc voilà, on rentre par là dans l'exposition. Et ensuite, on a essayé de cartographier, de faire un parcours, même si chacun peut déambuler à sa guise dans l'espace, de faire un parcours qui cartographierait les différents sentiments qui ont pu secouer la ville depuis début novembre. Et on est allé jusqu'au carnaval de la Plaine en mars. Voilà. Donc c'est il y a la rage, il y a la sidération, l'incompréhension, l'impasse aussi, le sentiment d'impuissance ou le sentiment de cogner contre un mur, mur au sens multiple, et aussi le chagrin évidemment, aussi des moments intimes de rétrospective, d'introspection, se dire un petit peu voilà. Ce qui s'est joué en chacun de nous pendant cet automne, où est-ce qu'on se trouvait, comment est-ce qu'on regardait les événements, comment est-ce qu'on regardait la violence aussi qui se déroulait dans la ville. Nous, on voyait le moment de Noël, on voyait des gens passer devant des poubelles en feu avec des cadeaux de Noël. Enfin voilà, il y avait énormément de contrastes, il y avait le marché de Noël qui jouait devant l'hôtel de ville, et puis à côté, il y avait une fanfare qui jouait la marche funèbre en portant les faux cercueils avec le nom des victimes de la rue d'Aubagne. C'était plein de contrastes comme ça, donc ça, on en parle aussi. Et on parle aussi du feu, c'est un peu notre sortie, c'est le feu comme une ambivalence. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue la violence? Est-ce qu'on part sur des histoires de convergence aussi, des convergences de lutte? Est-ce qu'on se dit que, comme pour le carnaval de la Plaine, on brûle tous les malheurs de l'année passée, et puis on part sur autre chose? Voilà, tout ça, ce sont des questions, évidemment, comme disait Agnès, on n'est pas là pour poser une vérité, on est plus là pour rappeler cet automne qu'il y a eu à Marseille et puis s'interroger ensemble sur l'après.
Mais le journal La Marseillaise, où se tient cette exposition, est une institution marseillaise qui est largement chargée d'histoire, puisque créée en 1943 par des résistants de ce qui était le Front National de Résistance. Et donc c'est un groupe de résistants communistes qui décide de créer un journal parce qu'ils avaient besoin de diffuser leurs propositions et leurs idées. Et à l'origine, le journal n'était édité qu'une fois par mois, puis ensuite une fois par semaine, et puis dès 1945, tous les jours. Et il y a des anecdotes très... très particulière. Au lendemain de la guerre, les résistants qui avaient fondé ce journal ont été obligés de le racheter à l'État français qui l'avait réquisitionné. Et quelques temps après, alors que les fournisseurs de papier avaient donné l'habitude d'être payés un mois, deux mois après la livraison, ont exigé d'être payés au cul du camion. Et il a fallu que les Marseillais se mobilisent, là encore, pour cotiser, pour acheter les bobines de papier. Et c'est comme ça que ce journal a pu continuer à être édité. Et je trouve que c'est fort d'avoir pu porter cette exposition dans ce lieu. Mais qu'est-ce qui a, pour vous, motivé le choix de ce lieu ?
Déjà, juste les bobines de papier, elles sont encore là.
Oui, c'est ça.
Je vais essayer de répondre à Agnès.
Ben, ce lieu, alors c'était pas notre premier choix au début, puisque à Marseille, il y a beaucoup de quartiers qui sont en transformation, notamment rue Lyon. Rue Lyon, c'est vraiment un quartier de Marseille qui va complètement changer, qui est en train déjà de changer complètement. Et on avait fait un reportage dans le bâtiment ici Marseille. Dans ce bâtiment, ils ont aménagé des conteneurs. Et ces conteneurs sont utilisés comme ateliers pour des artistes ébénistes qui travaillent le fer. Et je trouvais que ça rassemblait un peu toute l'idée de mon travail actuel et de la transformation de mon travail vers l'art plastique. Donc d'avoir des gens de métier qui pouvaient m'accompagner sur des œuvres plastiques créées en commun. Donc ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait parce que voilà, ce bâtiment, il ne va plus exister dans 2-3 ans. Et puis aussi, quand on rentrait dans ce bâtiment, avec ces conteneurs, on avait l'impression de rentrer dans un village avec des ruelles. Et c'est tout Marseille. Marseille, c'est l'histoire de village. Et là, on était vraiment dans un grand village. Bon, il y a eu quelques petits événements qui ont fait qu'on n'a pas pu faire l'exposition là-bas. Et c'est vrai que depuis le départ aussi, on parlait des rotatives de la Marseillaise. Parce que c'est un bâtiment qui est central, c'est un bâtiment qui a une histoire fantastique. C'est un journal qui a été très engagé dès le début, dès les effondrements des immeubles. Et pour nous, de toute façon, c'était important de travailler avec eux le temps de l'exposition. N'ayant plus lieu, on est allé les voir, on a dit on veut un peu plus que vous soyez partenaire d'exposition ou autre. On n'a plus lieu, on aimerait bien un lieu et ils nous ont accueillis généreusement. Voilà, et c'est vraiment un cadeau parce que moi je suis marseillaise aussi en plus, donc d'être au centre, de voir les gens passer, rentrer, pousser cette porte et voir ce travail qui est important parce que ça va au-delà de notre travail son et photographique. C'est le sujet qui est important, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est magique. Et puis ces murs qui sont, pour moi c'était interdit de faire cette exposition, en tout cas une première fois. Dans un bâtiment tout neuf avec des murs blancs, avec il fallait que il y ait de l'âme, il fallait qu'il y ait du cœur, du corps, et là on a tout quoi.
C'est... Lorsque tu parles de la rue de Lyon, c'est le quartier où je suis né.
Ah.
Je suis né à la Cabucelle, dans ce carré entre le boulevard de la Madragueville et puis le boulevard Odo et la rue de Lyon. Donc c'est le quartier de mon enfance. J'allais de temps en temps au cinéma qui a disparu depuis, mais c'est un quartier qui était très, très animé, très, très industriel. Il y avait une fabrique de chocolat, une torréfaction de café qui était à l'angle de la rue de Lyon, mais aussi des ateliers de chaudronnerie, de fonderie. C'était vraiment un quartier très, très, très populaire qui a largement évolué parce que laissé à l'abandon par tous, pas seulement par la municipalité, mais je crois vraiment aussi par les Marseillais et par les Marseillais dont je fais partie, qui n'ont pas résisté et qui ne se sont pas mobilisés pour que ce quartier reste beau.
Et puis aujourd'hui, c'est un quartier où je crois que c'est une des plus faibles densités à Marseille. Ça doit être 6000 habitants au kilomètre carré, quelque chose comme ça. Donc c'est difficile, je pense, pour eux de se mobiliser ou de faire se mobiliser d'autres. Donc c'est vrai qu'au départ, nous, on voulait expliquer, moi habitant à la Plaine, je voyais toute la mobilisation qu'il y avait autour de la Plaine, qui certes est importante, mais qui est une place, enfin, même si après il y a d'autres conséquences. Mais je leur disais, mais il y a un quartier entier là-bas. Qui est en train d'être totalement refait. Il faut s'en préoccuper, mais c'est vrai que c'est difficile de mobiliser. Donc c'est pour ça qu'au départ, on s'était dit, on va aller là-bas. Comme ça, on va essayer aussi d'attirer le sujet, la question là-bas. D'un côté, les immeubles s'effondrent. De l'autre côté, on reconstruit une ville, mais elle se reconstruit pas toute seule, mais en tout cas sans concertation, on va dire.
Un morceau de l'explication, c'est peut-être qu'à la Plaine, il y a une place. Alors que dans ce quartier-là, il n'y a pas de place. Oui, il n'y a pas de lieu où les gens se retrouvent. Il n'y a pas de marché.
Il y a le marché aux puces.
Oui, mais qui est loin.
Oui.
Et qui est qui est un marché, mais ce n'est pas le marché des habitants de ce quartier, c'est le marché de Marseille, c'est le marché Opus. Il n'y a pas ce lieu d'échange, de rencontre, de socialisation, ce lieu où les gens, les gamins jouent ensemble, où les mamans surveillent tous les gamins en même temps, et où il y a ce mixage des familles qui s'opère. J'allais à l'école qui était sur la place Casemajou, si ma mémoire est bonne. C'était il y a fort, fort longtemps. et à cette époque-là, il y avait l'école de garçons qui jouxtait l'école de filles. Nous n'étions pas encore mélangés. Mais il y avait pas, il y avait une place devant l'école. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre place dans ce quartier. Parce que tout ce quartier est occupé par de l'activité économique, de l'activité industrielle.
C'est vrai.
Revenons à votre exposition et peut-être que vous allez pouvoir nous indiquer pourquoi ces sons, pourquoi ces instants sonores, musicaux, avec qui vous les avez fabriqués, comment vous les avez fabriqués, enfin, ça vient d'où tout ça?
Alors, il y a quatre créations sonores dans l'exposition. Les sons viennent majoritairement de captations que j'ai pu faire pendant les manifestations, les mobilisations. J'ai aussi interviewé des citoyens, des manifestants. Donc c'est un peu une sélection de toutes ces captations-là. Et sur le son que j'appelle le son de la rage, donc c'est le son qu'on entend en arrivant dans l'exposition. C'est un son spatialisé avec différentes enceintes qui se répondent. Voilà, c'est une installation, c'est la première fois qu'on fait ça. Mais, et là, j'ai une amie, Maëlle Lejar, qui m'a aidée, qui a fait une composition sonore par-dessus mes sons, ce qui permet en fait, de les englober, de les lier les uns avec les autres, de aussi parfois adoucir... ces sons très bruts que j'ai pu prendre et de temps en temps, au contraire, accentuer la tension. Le côté un peu anxiogène, notamment j'ai une séquence sur la police où on a l'impression d'entendre des battements de cœur. Donc voilà, donc, en fait, c'est un travail d'abord de captation sur les mobilisations et cet accompagnement-là qui est venu, on va dire, donner une autre dimension au son. Sinon, moi j'ai travaillé le son, en fait avec Agnès on travaillait sur le parcours d'abord image, donc on a beaucoup discuté de ce qu'on voulait dire, enfin ce qu'on voulait proposer en tout cas, comment on voulait organiser le propos, et donc on a commencé par ce choix d'image. Moi j'avais en tête les sons, je les écoutais de temps en temps, mais j'avais tellement de rush, d'heures de rush, que j'ai d'abord attendu qu'on fasse ce parcours image. Et une fois que ces espaces étaient déterminés, j'ai commencé à travailler sur le son. Et moi, une chose qui me marquait beaucoup dans les manifestations, c'était la façon dont parfois les slogans se répondaient. Par exemple, y avait cette chanson du MLF « Debout les femmes » avec « Marseille debout, soulève-toi ». Tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la Soléam. Il y avait aussi une autre chose qui... Il y avait les gilets jaunes qui... parce que bon, effectivement, on parle de la rue d'Aubagne, mais on a suivi toutes les mobilisations pendant l'automne. Donc, il y avait des strates de colère très différentes qui sont parfois rejointes. Mais il y avait, par exemple, les gilets jaunes qui criaient aux armes et les écologistes qui criaient aux arbres. Voilà, donc j'ai essayé de jongler comme ça avec tous ces mots. J'ai fait une écriture, en fait, du son. Et à côté de tous ces mots, il y a aussi les bruits des déflagrations, les bruits des poubelles qui roulent, tout plein de bruits qui donnent en fait une ambiance. Le bruit des blindés qui remontent la Canebière, comme un moment complètement fou, enfin disproportionné. C'est d'ailleurs, il y a une image qui est assez cachée dans l'exposition, mais on voit ces blindés. Et une fois, il y a une amie qui est venue voir l'exposition, elle m'a dit « mais il y a vraiment eu des blindés ?» sur la Canebière. Est-ce qu'il faut y être pour le croire à un moment, hein, parce que c'est vrai que de loin... voilà. Donc, le son, c'est un peu toute cette ambiance sensible. L'idée, c'était d'essayer de retrouver cette sensation de marcher dans les rues, hein, comme on l'a dit au départ Agnès, c'est-à-dire cette sensation de redescendre à nouveau dans la rue. Et voilà. Donc,
tu veux rajouter des choses, Agnès?
Non, elle a bien résumé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, quand on lance l'exposition, parce que ça nous prend quand même un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à lancer, quand il n'y a pas le son, ça nous perturbe. On l'a tellement travaillé avec cette idée sonore que c'est vraiment, c'est comme si on a enlevé la moitié de l'exposition.
J'ai juste une chose quand même à ajouter. Il y a un son qui n'est pas de moi. Qui est très important, qui est un son qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui est le son de Abdelghani Mouzid, qui est un des locataires qui était au 65 rue d'Aubagne, qui est sorti 15 minutes avant que les immeubles s'effondrent. Et avant que les immeubles s'effondrent, enfin l'immeuble, en tout cas le sien, s'effondre, il a fait une petite vidéo et il est sorti pour aller voir son syndic pour leur dire « là, il faut faire quelque chose ». Il était rue de Rome et voilà, tout s'est écroulé 15 minutes après qu'il soit sorti. Et donc ce son a beaucoup circulé, donc j'ai essayé de le joindre. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé son contact. J'aurais aimé lui demander l'autorisation. J'espère qu'il ne sera pas gêné qu'on ait pu utiliser ce son dans cette exposition. Mais pour nous, il était très important parce que voilà, il rappelle la gravité de ce qui s'est passé. Et je l'ai mélangé avec un autre moment très fort. Qui était un moment plutôt d'élan de solidarité, qui était lors d'une démarche justement convergente avec différents. Il y avait les écologistes, il y avait les gens qui étaient là pour le logement, il y avait les gilets jaunes, il y avait plein de gens différents. Et il y a une femme qui a entonné la chanson de l'Auvergnat. Ça a été un moment dans la manifestation où tout à coup tout le monde s'est tu. Il y avait une émotion palpable. Enfin, c'était un moment très marquant. De la même façon, je ne sais pas qui est cette personne qui a chanté, mais voilà, elle se retrouve à l'exposition. Et elle a revisité la chanson de l'Auvergnat avec un dernier couplet sur les Marseillais qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'était mélangé à la fois l'horreur et puis cet élan de solidarité et de ce moment où les Marseillais étaient vraiment ensemble. Ouais, c'était un peu le grand écart quoi, pour moi, ce son.
Pour retrouver la personne qui est sortie de son immeuble 15 minutes juste avant l'effondrement, il faut peut-être vous rapprocher de Nicolas Mikhailov, qui est un reporter photographe qui a réalisé plein de portraits sur les personnes qui ont vécu cet événement de la rue d'Aubagne. Je pourrais vous donner ses coordonnées.
Plaisir.
Je l'ai invité il y a peu de temps dans le cadre de la manifestation qui devait être organisée le 5 novembre. Je l'ai invité aussi avec le collectif du 5 novembre. Et donc, eux ont plein de relations avec les gens du quartier. Donc, l'Agora, ça sert aussi à ça, faire de la connexion. Alors, je disais en préparant cette émission que les œuvres d'Agnès peuvent être achetées. Et j'entendais aussi à l'instant que pour vous, il est difficile de dissocier le son et l'image. Est-ce que lorsque quelqu'un va acheter une photo, vous allez lui proposer le son qui va avec ?
On n'y avait pas pensé à ça, j'avoue que...
Moi, j'ai aucun modèle économique. Je fais le son. Non, je sais pas. En tout cas, c'est non. On a plutôt réfléchi à comment on pourrait mettre tout ça à disposition après. Enfin, on réfléchit un petit peu à l'après. Alors, c'est sûr que la vente des photos. Enfin, on a eu le même problème avec les vidéos. Dès qu'on fait des vidéos, c'est un petit peu compliqué. Mais le but premier de cette exposition, c'était pas de vendre. C'était plutôt de donner à voir. Et c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon de faire vivre tout ça après. En fait, le son, on pourrait très bien le publier, mais c'est vrai que l'exposition, c'est un moment unique, c'est-à-dire que ça va être ce moment-là, éphémère, et une fois qu'on aura décroché, on ne pourra pas reproduire la même chose, c'est sûr.
Ah bah, de toute façon, là, cette exposition, elle a été, comme elle avait été pensée à ICI Marseille, elle a été pensée vraiment pour le lieu. C'est-à-dire qu'il y a certains tirages qui ont été imprimés 15 jours avant le vernissage, voire moins, parce que je prenais encore des mesures pour être sûre de tous les formats, de toute la position des photos et autres. C'est vraiment, depuis le mois de juin, en fait, on est en immersion totale avec plan 3D, mesures, projections de partout Donc tout s'emboîte comme ça. C'est-à-dire que si demain on est ailleurs, il faudra refaire ce même travail. C'est-à-dire on ne va pas juste amener et décrocher les photos puis aller les poser ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est, il y aura cette immersion dans un lieu pour recréer cette immersion qu'on a voulu créer visuelle et sonore.
Et puis c'est peut-être ajouter d'autres choses, retirer quelques éléments, mais recréer une ambiance qui soit adaptée au prochain événement que vous allez organiser. Mais pour la réalisation de cette exposition, vous êtes les instigatrices et les initiatrices, les chevilles ouvrières, mais il y a tout un collectif qui s'est mobilisé autour pour participer, pour réaliser cette exposition. Comment se fait-il que vous ayez pu rassembler autant de bonne volonté, de bénévoles pour participer ?
Déjà, je pense que le sujet, il est porteur. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de nos amis qui ont été sidérés, touchés et qui avaient envie de participer. Après, il y a un grand merci à faire à Evelyne Rigaud qui travaille au Grand Théâtre de Provence. Il y a, je ne sais plus, un an ou moins d'un an, m'a dit: Agnès, j'adore ton travail et j'adore travailler sur les expositions. Si tu as besoin, je serai là. Et bien, je lui ai dit: bah, oui, j'ai besoin et fortement.
Genre de proposition qu'il ne faut pas faire.
Donc, Evelyne a passé des heures et des heures et des heures et des heures avec nous, gratuitement. Et elle a suivi toutes mes idées farfelues. À chaque fois qu'elle arrivait, elle me disait: bon, qu'est-ce que tu as encore inventé ? Et ça a été un vrai bonheur. Et voilà. Après, on a eu encore un technicien qui nous a soutenus. C'est Philippe Boinon, pour tout ce qui est la partie son. Et ça a été encore un grand cadeau.
C'est pareil, sans lui, le son spatialisé, je pense que je n'aurais jamais réussi. Voilà. Donc, voilà.
À un moment donné, c'est
un métier aussi.
C'est ça.
À un moment donné, on a de grandes idées et on a vu grand, mais il fallait quand même des gens qui étaient spécialistes. Et Étienne, qui est arrivé, qui s'est greffé trois jours avant qu'on monte, parce que pour dire, on avait 2 jours pour tout monter l'exposition, ce qui est un miracle. J'avoue que même pendant qu'on montait, je disais: on ne va pas y arriver, mais on l'a fait. Et puis mon neveu, des amis, malheureusement je vais pas tous les citer parce que sinon je vais en oublier, ça va être catastrophique. Ah si, quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est Nathalie Genot, qui est une artiste plasticienne et graphiste qui est exceptionnelle. Et l'affiche que vous voyez partout, le petit flyer qui se balade, c'est son œuvre, parce que c'est une vraie œuvre, c'est vraiment une artiste. C'est elle qui avait choisi le visuel, parce que je lui avais donné carte blanche en disant: il faut que tu t'éclates. Et ben, c'est bien éclaté, parce que le graphisme est superbe.
Ouais, j'avais juste un exemple aussi, c'est tu demandais comment ça se fait que les gens sont venus nous aider. Et pour rebondir sur ce que disait tout départ Agnès, il y avait Fabio, par exemple, qui est venu nous aider. Il nous a dit: bah, voilà, j'ai pas pu me mobiliser à l'époque, mais moi, je crois que c'est sa fille qui habite rue d'Aubagne. Enfin voilà, il y avait un lien très clair, très direct. Et il s'est dit: voilà, je me suis pas encore mobilisée. Ben voilà, là, c'est l'opportunité de le faire. Donc je pense qu'il y a plein de raisons, mais le sujet était... il y avait à la fois le réseau d'Agnès, des gens avec qui elle a appris à travailler depuis longtemps ou qui l'observent. Ou voilà, enfin des rencontres comme ça sans ce passif là en fait d'Agnès dans le milieu de la danse, je pense que ça aurait été plus compliqué, mais aussi du coup des personnes qui avaient juste envie de donner la main, comme on dit à Marseille, et ça c'est très précieux.
Et donner la main, c'est bien le cas de dire, parce que 2 heures avant qu'on ouvre, on a quand même eu 2 copines qui sont arrivées pour balayer les rotatives. Donc chapeau à elles, parce que c'était pas le job le plus sympa de l'histoire.
C'était pas le plus valorisant, mais il y en avait besoin
et
aussi.
Et Fabio.
Ouais,
et voilà.
Il a aussi balayé, je veux dire.
Et puis il y a quelqu'un dont il faut citer aussi, parce que sans cette personne, l'impasse, on appelle cette installation l'impasse avec le casque, n'aurait pas pu se faire. C'est un partenariat...
Tu l'expliques un peu plus, peut-être.
Oui, je vais l'expliquer. En fait, on a une créatrice qui s'appelle Florie Brisset, qui travaille à Paris. et qui est créatrice plutôt dans le domaine de la mode, qui fait des broderies et des rajouts d'objets 3D sur des vêtements et autres. Et en fait, j'avais cette idée d'impression sur un tissu transparent pour créer une perspective dans l'espace, avec toujours cette idée d'ambiguïté, c'est-à-dire de fragmentation, pour que quand on se déplace, on aperçoit un petit bout de cheveux, un petit bout de tissu, un bout d'épaule, etc.
Il faut absolument que je te fasse rencontrer Rodia Begino, qui est une plasticienne et qui travaille aussi sur l'assemblage, le rajout d'éléments sur des vêtements, sur des tissus, sur de la toile. Enfin, c'est une très très belle artiste.
Ah ben je veux bien. Et donc, pour revenir à Fleury-Brissé, on avait contacté quelques imprimeurs qui étaient capables d'imprimer sur tissu et de nous donner des conseils, surtout parce que moi, le tissu, honnêtement, je n'y connais pas grand-chose. Et vu le sujet, on lui a envoyé notre dossier artistique. Et vu le sujet, elle a dit, moi, je serai partenaire. Et en fait, elle nous a donné son temps. Et elle nous a, cette installation ne nous a coûté que l'impression sur tissu et le tissu, ce qui est vraiment formidable parce que c'est quelqu'un qui travaille, je pense, avec de grands créateurs, et elle a donné de son temps.
Oui, et puis ses compétences, de sa connaissance de tel tissu, comment ça va sortir en impression, comment ça va se tenir. Donc oui, elle nous a fait gagner beaucoup de temps et...
On espère qu'elle vienne à Marseille, parce que moi, je ne l'ai pas rencontrée. Christelle a eu la chance de monter à Paris et de la rencontrer. Mais moi, je n'ai eu que la chance de faire des allers-retours téléphoniques pour arriver à créer cette œuvre.
Après, il y a eu d'autres participations. Elles étaient vraiment multiples. On a dû faire une campagne de financement participatif pour boucler le budget. Donc là, on a à peu près 80 personnes qui ont contribué. À chacun à des niveaux différents. C'était vraiment. C'est pas toujours facile de demander de l'argent, mais c'était nécessaire pour pouvoir faire cette exposition dans les conditions actuelles. Et puis aussi, on a fait une œuvre participative un petit peu. Mais on s'est dit d'ailleurs qu'on en fera d'autres comme ça, parce que c'était pas prévu comme ça.
Peut-être pour la fin de l'exposition.
Mais on a demandé à plusieurs personnes de nous aider à marteler une plaque de zinc. Et il y a justement ici Marseille, on était encore en contact avec certains artisans là-bas. Donc il y avait Eduardo qui nous a prêté un marteau spécifique pour faire ça. Et on est allé faire ça sur le port, sur le vieux port. Et différentes personnes nous ont aidés à marteler cette... sans savoir vraiment ce qu'il y avait derrière.
Plus ou moins.
Mais bon, c'est à découvrir, ça, on ne va pas en parler plus. Il faut venir à l'exposition pour voir cette sculpture de tôle martelée.
Et on l'a martelée pendant 5 heures pour arriver à ce résultat. Ça a été un long moment, mais un moment plein de partage et de choses rigolotes.
Et donc, on s'est dit que ce serait une piste pour d'autres installations, d'autres œuvres, travailler ça, le fait de le faire ensemble. C'est chouette aussi, c'est bien.
Une belle initiative. Mmh. Alors, vous êtes... pratiquement à mi-chemin de cette exposition, puisqu'elle va durer jusqu'au 21 décembre, les jeudis, vendredis et samedis à partir de 17h. Et déjà, au travers des visites que vous avez eues, des personnes que vous avez rencontrées, quel est votre sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction peut-être, mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous retirez de cet événement?
Juste avant de laisser la parole à Agnès, je te rectifie juste, c'est tous les jeudis et vendredis de 17h à 21h et le samedi c'est l'après-midi, donc c'est 14h, 18h, enfin en général on finit à 20h.
D'accord.
Et juste pour finir, là on sera ouvert aussi le dimanche, ce dimanche, et on a, après je reparlerai après du reste, maintenant je laisse Agnès répondre.
Moi, ça fait, c'est la 4e exposition où je me dis qu'il est temps de prendre un peu le temps pour mon travail personnel et donc de me défendre comme artiste, en fait. Et c'est quelque chose qui est très bouleversant, en fait. C'est, en tout cas pour moi, parce que artiste, ça veut dire qu'on est capable de mettre de l'argent dans des installations, dans des œuvres, alors qu'il y a des gens qui ne finissent pas leur fin de mois. Moi-même, des fois, c'est compliqué. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi Et je crois que justement, dans les retours qu'on a eus, je pense qu'un des plus beaux retours pour moi, en tout cas, qui me donne une réponse, c'est expo utile, nécessaire.
C'est un joli compliment.
Voilà. Et un des plus beaux moments de remerciement qui m'a vraiment frappée et qui m'a donné les larmes aux yeux, il y a un jeune couple qui est rentré dans l'exposition. Il est resté très longtemps dans l'exposition. Et puis, il est ressorti. Et ils se sont plantés en face de moi et ils m'ont souri. Et ils n'ont pas bougé. Donc, bien sûr, je les ai remerciés. Et ils n'ont toujours pas bougé, donc je les ai remerciés. Et à un moment donné, je pense que j'aurais fondu en larmes. Donc, j'aurais dit, bon, allez, oust, filez. Prenez des flyers, communiquez dessus, mais filez. Et voilà, s'ils s'entendent, en tout cas, un grand, grand merci encore. Parce qu'après, j'ai regretté de ne pas avoir plus parlé avec eux. Mais en fait, je pense qu'ils n'étaient pas capables de parler. Je ne sais pas s'ils viennent de la rue d'Aubagne ou d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un grand moment. Et c'est ces moments-là qui me disent, oui, d'être artiste, ça sert, c'est utile. Et il faut toujours garder les pieds sur terre, mais il ne faut pas abandonner, quoi.
Ce moment méritait d'être photographié, mais c'est bien que tu l'aies inscrit dans ta
mémoire. Il est dans ma tête. la photo, je l'ai. Hein.
Et après, bah, je ne sais pas, est-ce que tu es là? Moi, j'ai tendance à dire en ce moment qu'on devrait mettre au-dessus des rotatives à l'entrée une enseigne Office du tourisme bis. Parce que...
Entrée principale.
Entrée principale. C'est-à-dire qu'on montre effectivement une facette un peu moins glamour de Marseille. Mais on a beaucoup de gens qui sont de passage et qui passent sur ce cours d'Estiendorf et qui rentrent. Et voilà, qui sont assez surpris parce que c'est aujourd'hui à Marseille, on refait les façades, mais voilà, derrière les façades, il y a aussi ce genre de réalité. Mais c'est pas juste quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on donne aussi à voir le vivant de cette ville. Enfin, donc c'est touchant. Je pense que donc et il y a des gens, ça leur parle au-delà de Marseille. C'est-à-dire qu'on a vu des Brésiliens qui sont passés, qui ont été extrêmement touchés. On a eu là des un Afghan et une Iranienne qui étaient en ce moment au MUCEM pour une exposition en cours. Bon, voilà, on a des échanges avec des personnes très différentes, d'horizons différents. On a aussi juste des gens qui viennent de Nice voilà, et qui avaient vu ça un peu de loin. Je me rappelle une discussion comme ça, on ne s'était pas rendu compte. Et après, évidemment, tous les Marseillais aussi qui n'avaient pas forcément été très connectés, ils sont au courant, mais pareil, ils n'avaient pas forcément réalisé tout ça. Et puis, comme tu dis, les personnes qui ont été directement touchées, alors elles, on les voit souvent passer à... c'est des démarches personnelles, alors ça ne doit pas être une démarche facile de venir se replonger volontairement dans les événements. Donc j'ai l'impression que voilà, cette exposition, elle parle à différents types de personnes, différents endroits, certains sans doute pour... Je ne sais pas ce qu'ils vont y chercher, parce que les personnes qui on a des logés aussi qui viennent, c'est assez très intime, donc ils n'en parlent pas tant que ça quand même. Mais par contre, je sais que ceux qui n'étaient pas au fait des choses, on a au moins servi à ça, à les informer ou à les amener à considérer ce qui s'était passé. Voilà.
Et puis, c'est un cadeau d'être aussi central, parce qu'en fait, on a du passage devant les rotatives. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui savent pas ce qu'ils viennent voir. Et notamment, on a beaucoup de jeunes avec lesquels on peut discuter. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi un cadeau, quoi.
Eh bien, à propos de cadeaux, qu'est-ce que vous nous préparez d'ici Noël?
Alors, non, c'est vrai que
l'occasion était trop belle.
En fait, on essaye de... Donc, on est là jusqu'au 21 décembre, donc on essaye de faire le plus de choses d'ici là. On a le samedi à 17h, à Ex Nihilo, la compagnie de danse Ex Nihilo, qui va venir relier les deux réalités d'Agnès, en fait, puisque elle a transposé son regard de photographe de danse sur les scènes de rue. Donc, on disait dans notre dossier qu'on passait du corps dansant au corps révolté. Il faut des mots comme ça pour les dossiers de présentation, c'est important. Mais que... Voilà, là, oui, vas-y,
t'as... Et qu'en plus, depuis le début, sur ces sujets-là, sur tous les sujets que je suis en train de traiter actuellement, je voulais vraiment amener à un moment donné des corps qui dansent, des danseurs. Donc, ça fait partie entière de l'exposition.
Parce que, donc là, ils vont venir danser dans les rotatives, dans et, l'exposition.
Et sur les sons qui sont...
Et sur les sons actuels.
Et en s'inspirant des images.
Voilà. C'est ils vont, donc ça va rajouter cette dimension à la fois, effectivement, du corps, mais aussi cette dimension du présent. On en discutait avec eux, puis avec Agnès, c'est que c'est vrai que quand on va dans les expositions, souvent, on a une sensation de distance, de ces choses du passé. Enfin, il y a quelque chose d'un peu froid, etc. Donc, ouais, on attend beaucoup de cette dimension supplémentaire du présent et du corps et du mouvement. Donc ça, c'est 17h samedi. Et puis, dimanche, à 16h, on fait une rencontre signature entre Agnès et Karine Bonjour. Karine Bonjour, c'est l'autrice qui a fait le livre « Rue d'Aubagne, récit d'une rupture ». C'est une démarche documentaire, en fait, sur les événements. Donc, c'est très complémentaire de la démarche d'Agnès et de moi-même. Et en fait, on vend déjà ce livre au nom du collectif du 5 novembre dans le cadre de l'exposition.
Imprimé par les éditions Parallèles, qui est une maison d'édition marseillaise.
Oui.
Je crois que c'est important de dire
c'est parenthèse, aussi... Parenthèse, non
c'est parenthèse,
parenthèse.
Oui, parenthèse, oui.
Et, oui. Oui, tout à fait. Et puis, c'est les recettes de ce livre, de tout ce qu'on vend pour le collectif à l'exposition, va directement au fonds d'aide aux délogés qu'ils ont monté avec l'Empile, avec Emmaüs Pointe-Rouge. Donc voilà, donc ce livre, moi il m'est arrivé en fait que des gens sortent de l'exposition et qu'ils soient un petit peu, qu'ils aient besoin qu'on leur raconte les choses de façon très cartésienne en fait. Donc du coup ce récit, il est vraiment, je leur dis bah voilà, achetez-le, comme ça vous allez, y a plein de choses qu'on va vous réexpliquer, qu'on va vous raconter, vous allez comprendre des choses, vous pouvez après revenir à l'exposition, vous allez avoir des détails. Mais donc cette rencontre, ce sera donc dimanche à 16h dans le cadre du Noël de la culture qui se passe, pas au Rotatives, mais dans la Marseillaise, juste le bâtiment d'à côté.
Est-ce que vous avez imaginé que les danseurs soient à la fois à l'extérieur et à l'intérieur ?
Non, là, ça va être vraiment à l'intérieur. L'idée, c'était vraiment qu'ils soient à l'intérieur de l'exposition. Donc,
Après, de toute façon, ils vont venir travailler vendredi. Ils vont venir travailler, donc c'est eux qui vont décider aussi.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas.
C'est eux qui créent.
Et alors...
je trouve que c'est toujours important de sortir les choses, de les amener vers les autres.
Mmh. Oui, bien sûr.
Parce que sur cette place, il y a plein de personnes qui circulent. Et c'est peut-être bien aussi, parce qu'il y aura du mouvement entre l'intérieur de la salle et puis la place, de donner envie aux gens de rentrer et de venir voir.
Tout à fait.
Bah après, c'est vous qui en décidez.
Et ensuite, il y aura le 21 décembre, sur le dernier jour, il y aura plein de surprises aussi. Donc voilà, d'autres propositions de danse et d'autres choses. Il y a des différentes personnes au fur et à mesure qu'elles viennent voir l'exposition. Voilà, il y a des propositions qui naissent de ça, un petit peu de la même façon, c'est-à-dire des propositions bénévoles. Hein, les danseurs qui viennent, ils viennent de façon bénévole. Et il y aura d'autres choses, donc plein de choses le 21 décembre. Et après, hop, on démonte.
Et après le démontage, vous faites quoi ?
Les vacances.
Les vacances.
Ces vacances, c'est du 24 ou 25 décembre. Et après, vous devez avoir quelques...
Alors, les vacances, on va les faire durer un peu plus que le 24 ou 25 décembre. On va aller jusqu'au 1er décembre. Et après, on va réfléchir à d'autres sujets.
Ben, vous avez déjà des projets ?
Alors, il y a déjà un projet qui est sûr, puisque actuellement, je suis dans un centre de gérontologie à Aix-en-Provence, dans un EHPAD, et je fais une forme de résidence d'artiste pour après créer une exposition. Donc ça, ce sera l'année prochaine. Donc ça, c'est sûr, voilà. Et après, on est en train, bien sûr, de réfléchir sur un autre sujet.
et c'est quoi l'autre sujet ?
Non, c'est pas très défini encore. Il y a des choses qui nous titillent, tu vois.
Plutôt que les projets, vos idées, vos envies. Quoi.
Mais en fait, on a beaucoup discuté récemment avec Agnès de ce concept de mixité sociale et du fait qu'il est un peu en sens unique, enfin d'interroger qui parle de mixité sociale et à qui ça s'applique. Voilà. Non, mais c'est trop tôt pour en parler, mais en tout cas, on a encore des sujets difficiles, complexes à traiter.
Vous ne voulez pas faire de confidence, aux auditeurs de Rayon de
Galles. Je viens d'en faire, là.
Ouais, mais... je suis gourmand.
Mais voilà, non, mais c'est sur le principe. Pour te donner un exemple, c'est en gros, quand on est. Si moi j'ai un passeport, je peux aller partout à peu près dans le monde sans grande difficulté et les choses ne sont pas forcément bilatérales. Et la mixité sociale, c'est un peu ça aussi. On réclame la mixité sociale, mais qu'est-ce qu'on réclame en parlant de ça? Est-ce que c'est moi en tant que classe moyenne, blanche, éduquée, qui veut pouvoir avoir accès au magasin de Noailles ou est-ce que c'est autre chose? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont dans d'autres communautés? Il y a quelque chose autour de ça. Après, c'est pas du tout dit qu'on traite ce sujet-là rapidement, mais... voilà, en discutant de la façon dont des choses se passent aussi, on a une amie dans le quartier de la Belle de Mai. Il y a plusieurs discussions, mais il y a des choses qui gênent un peu aux entournures. C'est là qu'il faut gratter. C'est là que ça devient intéressant, c'est d'essayer de comprendre déjà d'où on parle. Et ça permet déjà de se dire il y a d'autres personnes qui parlent d'ailleurs. Et c'est un début de dialogue, ça s'appelle.
Dans le cadre du colloque que l'Université populaire de Marseille Métropole organisait ce week-end au MUCEM et qui traitait des murs, parlons-en, à l'ouverture de ce colloque, je disais, les marchandises et la finance circulent de manière complètement libre, sans aucune restriction, sans contrainte, et ce n'est pas du tout la même chose pour les personnes. Et dans les personnes, c'est beaucoup plus facile de faire déplacer une vedette sportive et de lui obtenir un visa ou la nationalité, alors que c'est extrêmement compliqué pour des musiciens, des artistes ou des intellectuels qui, ceux-là, sont cantonnés derrière des murs, derrière des frontières. Oui. Je crois que notre travail collectif, c'est tout ça. C'est apprendre à pousser ces murs et c'est la proposition que je ferai à tous les intervenants qui étaient pendant ce colloque. Nous avons abordé des murs, parlons-en, maintenant poussons les murs. Et parce que j'aime bien anticiper, le troisième volet de ce colloque sera maintenant ouvrons les fenêtres.
Moi, je suis passée donc au colloque et il y a deux choses que j'ai retenues. Je n'ai pas passé très longtemps, mais c'était sur le mur de la peste, cette histoire du mur qui est construit pour se protéger de la Provence et de la peste qui arrive à Marseille. Et finalement, c'est Avignon, enfin, et autour d'Avignon, là, ils se protégeaient de. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils construisent un mur pour se protéger de la Provence et finalement la peste se déclare à Avignon et du coup le mur s'inverse. C'est du coup ils peuvent plus, ça devient leur mur. Enfin ils sont emprisonnés dans ce mur. Et l'autre c'était un ingénieur qui disait que un mur était un équilibre instable et qu'il finissait toujours par tomber. Voilà, c'était sa vocation de tomber le mur à moins qu'on ne l'entretienne et qu'on ne le rénove. Donc voilà, donc les murs ne tiennent pas tout seuls. Ça, c'est une bonne leçon pour nous à Marseille, je pense.
Merci pour ce témoignage. Il nous reste peu de temps. Peut-être rappeler les horaires les horaires de l'exposition et jusqu'à quand, où trouver des informations.
Alors donc je vais le redire, c'est tous les jeudis, vendredis.
Oui, c'est important de le répéter.
Oui, il faut répéter. Même si donc tous les jeudis et vendredis de 17h à 21h et tous les samedis de 14h à 18h, en sachant que le dimanche 8 on sera ouvert aussi, qu'il est probable qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de l'exposition, on ouvre un peu plus. Donc faut suivre. On indique ces horaires supplémentaires sur la page Facebook de l'association. Donc c'est facebook.com/association-vart5, tout attaché, association. Et vart5, c'est V-A-R-T et le chiffre 5. Et donc là, vous trouvez plus d'informations sur les horaires supplémentaires et sur les événements qui vont s'y dérouler. Voilà.
Avez-vous d'autres choses à rajouter? Il nous reste 2 minutes.
Bon, alors là, c'est toujours la question à blanc.
Courez au rotatif, on est là jusqu'au 21, ça va vite arriver. Et tant pis pour ceux qui ne l'auront pas vu.
C'est ça, après c'est fini.
Alors, de manière taquine, mais vous me connaissez un tout petit peu.
J'ai oublié de dire que l'entrée était libre aussi, parce que c'est important.
Oui, libre et gratuite.
Libre et gratuite, avant on se disait que ce n'était pas toujours la même chose.
Quels sont les morceaux de cette exposition que vous préférez, l'image ou le son? Ou le son et l'image? Est-ce que vous avez des préférés ?
Moi, j'aime bien le contraste qu'il y a entre... parce qu'en fait, on n'a pas trop raconté les rotatives, le lieu. C'est donc l'ancienne salle des rotatives marseillaises. On n'a pas eu du journal, mais on n'a pas vraiment dit qu'il y avait... Il y a encore les machines, en fait, avec les rouleaux de papier, etc. Parce que c'est là qu'ils imprimaient le journal jusqu'en 2015. Et donc, quand on entre, on a tout l'espace devant les rotatives. Et après, on indique aux gens, donc, et après, vous tournez à gauche au bout et vous passez de l'autre côté des rotatives. Et moi, j'adore ce contraste. Et en plus, comme nous, on est devant, on ne les voit pas, on les voit disparaître de l'autre côté des rotatives et on ne sait pas ce qui s'y passe vraiment. Enfin, on sait ce qu'on propose, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est un côté assez mystérieux et j'aime beaucoup le contraste de lumière entre les deux et d'ambiance entre ces deux côté face, côté pile, quoi. Enfin, voilà.
Oui, parce que la lumière, il faut dire qu'on l'a bien, on l'a vraiment travaillé dans ce lieu. Pour moi, ça serait plutôt le quand on rentre, il y a un grand espace qui s'ouvre. Et sur la droite, il y a une partie de l'espace qu'on appelle le moment de sidération, de pause. Et là où on a mêlé des projections avec des photos imprimées sur directement sur Dibon. Et je ne sais pas, ce couloir-là qui amène à l'impasse, je sais pas, il y a un côté dingue, mais qui pour moi est apaisant, alors qu'il n'est pas du tout apaisant, puisque on parle de personnes qui sont mortes, on parle de... Mais je sais pas, il y a quelque chose dans cet espace-là qui me touche beaucoup.
Et aussi, il y a une chose qu'on n'a pas forcément précisée, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec la matière des murs des rotatifs. C'est un lieu qui est vraiment dans son jus, pour le coup, même s'il a eu des petites transformations liées au tournage du film qui a eu lieu en septembre. Donc, il y a des choses qui paraissent très anciennes, en fait, qui sont toutes neuves, et nous, on les a vues se créer. Il y a des murs avec de la peinture qui s'écaille, etc., des trous dans les murs. Il y a certaines projections qu'on a calées justement sur ces murs et la matière et cette désintégration du mur ou ces trous dans les murs, elle renforce l'image, elle crée une autre narration. Et on voit par exemple sur une des projections, on a l'impression qu'il y a une main, on a l'impression que la main, elle part en lambeaux. On dirait que la peau part en lambeaux, alors que c'est juste la peinture sur le mur.
Comme le bout du parapluie, on a l'impression qu'il est en train de se déchirer. Oui. Et ça ramène de la matière, en fait, à l'image. Et comme je travaille de plus en plus sur la matière, donc c'était très intéressant de travailler là.
Voilà.
Merci Agnès, merci Christelle.
Merci. Merci à toi et puis on t'a rencontré aussi dans le cadre de cette exposition. Et vraiment c'est un bonheur, voilà.
Merci. Merci. Cette émission L'Agora, c'est aussi le prolongement de l'Université populaire de Marseille Métropole qui se réunit tous les lundis à partir de 18h30 à la Casa Consola. Et lundi prochain, le 9 décembre, nous recevrons pour son deuxième exposé Stéphane Rio, qui nous a parlé hier du fascisme au XXe siècle et qui poursuivra son exposé lundi prochain. Merci à toutes, merci à tous les auditeurs de Radio Galère et puis merci à nous. À tout bientôt. Okay.